Vous écoutez RTL.
Bonne fin de semaine à l'écoute d'RTL. RTL, il est midi et demi.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce vendredi 5 avril, une pilule qui passe mal auprès des pharmaciens, l'autorité de la concurrence s'en prend à leur monopole. Elle souhaite que les médicaments sans ordonnance soient disponibles aussi dans les grandes surfaces et sur Internet. Une vingtaine de commerces tagués à Lyon, insultes racistes et croix gammées, ça s'est passé avenue Berthelot. Carlos Ghosn en garde à vue pour 9 jours à Tokyo. La presse japonaise fait état d'un mail qui pourrait constituer la preuve d'un nouveau détournement d'argent. Dans RTL Midi aussi, votre smartphone plus efficace que votre chéquier. On va bientôt pouvoir faire un virement à un ami de manière instantanée, mais cela sera-t-il totalement sécurisé? Restez bien à l'écoute. Des milliers d'Algérois dans la rue, 7e vendredi de mobilisation. Ils exigent la fin du système au pouvoir. La météo, bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
On met le cap à l'est pour trouver du soleil aujourd'hui.
Ah bah très très clairement, oui. On a beaucoup beaucoup de soleil sur tout le flanc est, mais aussi entre le nord, l'Île-de-France, le centre et le massif central. En revanche, à l'arrière, sur la Normandie, sur le Limousin ou le Midi-Toulousain, ça va peu à peu être plus nuageux. Cet après-midi, on pourrait avoir quelques ondées. Et puis à l'ouest, vraiment entre la Bretagne et le Pays Basque, là, un ciel très chargé tout l'après-midi. Des pluies assez soutenues d'ailleurs au niveau de l'Aquitaine. Quant aux températures, elles iront de 10 à 19 degrés des Côtes d'Armor à la Corrèze, 15 à Paris, à Niort, à Mâcon et Orléans.
La question du jour sur RTL.fr. Faut-il élargir la vente de médicaments sans ordonnance aux grandes surfaces? Les avis sont très partagés. Vous dites oui à 49%, 47% de non. On attend vos appels au 3210, vos arguments sur Facebook et Twitter. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour Christelle. Autre sujet possible, les interdictions administratives de manifester censurées par le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous l'approuvez? Et puis, vous pouvez aussi nous appeler à l'occasion du SIDAction. La prévention est-elle suffisante? Parlez-vous sexualité avec vos enfants? Le sujet est-il tabou dans votre famille? À tout à l'heure.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Et pour commencer, cette réquisition inédite. Le tribunal correctionnel de Vannes, dans le Morbihan, a requis 3 mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende pour le meurtre de Babe. Elle avait 3 mois et cette petite truie, adoptée par une famille d'accueil, a fini Henriette, Raphaël Vantard.
La pauvre Babe avait pourtant été sauvée de l'abattoir. Laurence dirige une association qui offre aux chevaux une fin de vie paisible à Saint-Jacques-les-Pins dans le Morbihan. Un jour, elle ouvre son écurie à cette petite truie, mais elle doit déménager. Là, notre petite Babe est confiée à une famille d'accueil. Tout est préparé, un contrat est même passé avec cette famille. Elle s'engage à ne pas brutaliser l'animal. Tu parles. 3 semaines après, lorsque Laurence vient rendre visite dans la famille à la petite truie, elle n'est plus là. La famille adoptante semble gênée. En fait, l'ex-mari est un ancien boucher de campagne. Il n'a pas tenu en voyant l'animal. Sa femme s'est plaint en voyant le cochon grossir de jour en jour. Alors, sans état d'âme, il en a fait du saucisson, des rillettes. Sympa, il a même proposé à son ex-femme de lui garder quelques pots de pâté. Cette fin tragique de Babe en rillette n'a pas du tout plu au procureur de Vannes. Il vient de demander la condamnation à 3 mois avec sursis et 500 euros d'amende.
Récit savoureux signé Raphaël Vantard. Des médicaments en un clic ou dans votre caddie, l'autorité de la concurrence veut assouplir les règles de vente des médicaments et les élargir à Internet et aux grandes surfaces. On parle bien sûr de médicaments vendus sans ordonnance. De quoi tirer les prix vers le bas. L'idée déplaît aux pharmaciens, bien sûr, et laisse assez perplexe le gouvernement, Anaïs Bouissou.
Oui, l'idée d'avoir des sortes de mini-pharmacies dans les supermarchés, ça fait un peu trop mélange des genres pour le ministère de la Santé, qui précise que les médicaments ne sont pas une marchandise comme les autres. Dans les grandes surfaces, l'autorité de la concurrence propose pourtant qu'il y ait bien un coin dédié uniquement aux médicaments type paracétamol ou ibuprofène, aux tests de diabète par exemple et aux ventes d'huiles essentielles. Des soins qui ne nécessitent pas d'ordonnance et qui seraient toujours vendus sous le contrôle et avec les conseils d'un pharmacien. Non, ce qui retient davantage l'attention du gouvernement, c'est une autre proposition de l'autorité de la concurrence, celle de permettre à plus de Français d'acheter leurs médicaments en ligne sur des sites internet sécurisés et associés à une pharmacie physique. Aujourd'hui, seule une officine sur 100 s'est lancée dans l'aventure de la cyberpharmacie parce que les règles sont encore trop strictes. Des discussions avec les professionnels de santé vont donc s'ouvrir d'ici la fin du mois pour permettre à plus de pharmacies d'entrer sur le marché de la vente en ligne sans pourtant ouvrir la porte à un Amazon du médicament.
Les explications d'Anaïs Bouissou. Nous sommes en ligne avec Philippe Besset. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Il faut bien séparer les choses. La vente sur Internet tablettes et dans les grandes surfaces. D'abord, les médicaments au supermarché, ça vous fait bondir ?
Oui, évidemment. Mais c'est un rapport récurrent de l'autorité de la concurrence. Depuis le rapport Ouvier-Farmand de 1959, ça fait 30 ans que tous les 4 ans, les tenants de cette politique nous refont le même rappel. Et à chaque fois, les gouvernements successifs doivent rappeler à l'autorité de la concurrence que le médicament, ce n'est pas une marchandise, que le médicament, c'est un soin.
Oui, mais s'il y a un pharmacien en rayon dans un supermarché pour faire du conseil, quel est le problème ?
Le problème est d'une part territorial. Parce que vous voyez bien que les pharmacies sont les derniers îlots de santé dans les territoires. Et le sujet, c'est de ne pas concentrer dans des centres commerciaux toutes les derniers lieux de santé des territoires. Ça, c'est un des premiers problèmes. Et l'autre problème, c'est la chaîne de sécurité du médicament, puisque l'officine ne peut acheter que... ces médicaments que dans un circuit sécurisé, ce qui fait que la France est le seul pays où il n'y a absolument aucune contrefaçon dans le circuit officiel du médicament.
Et pourquoi les supermarchés n'auraient-ils pas accès aussi à ce circuit ?
On voit bien comment ça se passe dans les autres pays européens ou mondiaux. On arrive sur des phénomènes de courtage, on arrive sur pour attirer le prix vers le bas, on essaie d'acheter des médicaments un peu n'importe où. On voit ce qui se passe dans l'alimentation. Ce serait pareil pour le médicament, mais là, encore une fois, ce serait beaucoup plus grave parce que là, c'est un soin. Le médicament, ça a une balance bénéfice-risque. Tout médicament comporte des effets secondaires et ce n'est pas un produit de consommation courante, ce n'est pas une marchandise en fait.
C'est pas un bonbon, on est bien d'accord. Mais au fond, Monsieur Bessé, ce qui vous dérange, c'est pas que les supermarchés vont casser les prix ?
Non, parce que le médicament en France est, dans nos confrères européens, un des trois moins chers d'Europe, et le moins cher dans de multiples cas. Bon, c'est pas une question de prix, c'est véritablement une question de présence sur les territoires, c'est vraiment ça.
Ils vont quand même tirer les prix vers le bas,
L'autorité nous fait quelque chose d'un peu plus malin cette fois-ci que les dernières fois, parce qu'elle nous dit, en fait, ce serait des pharmaciens qui pourraient faire ces chaînes-là. Donc, en fait, il y aurait deux ou trois afflelous de la pharmacie qui pourraient faire ça. Nous, encore une fois, les territoires, que ce soit des quartiers difficiles, que ce soit le maillage de la France, l'accès aux soins, c'est quelque chose, même si quelques-uns d'entre nous pourraient peut-être profiter de l'aubaine, ce n'est pas une question d'aubaine, c'est une question de soins, c'est une question de santé.
Une toute dernière question, rapidement. La vente sur Internet, elle serait, elle aussi, très encadrée. Les discussions vont débuter bientôt avec le ministère de la Santé. Vous êtes prêt à aller jusqu'où ?
Tout moyen qui facilite la transparence, parce qu'on la doit aux Français, c'est une question de confiance. Tout sujet facilitant la logistique, à condition de garder le lien entre l'usager, entre le patient et son pharmacien de référence. C'est ça que nous ne voulons pas, que nous voulons absolument préserver.
On garde le lien et le conseil. Merci beaucoup Philippe Bessé d'avoir été l'invité d'RTL Midi, merci. Ils vivent dans l'angoisse d'avoir un cancer. Ils ont travaillé toute leur vie au contact de l'amiante parce qu'ils étaient dans le bâtiment, la métallurgie. Et ils attendent avec impatience tout à l'heure un arrêt de la Cour de cassation qui pourrait faire jurisprudence et leur accorder un préjudice d'anxiété. C'est une décision extrêmement importante, Virginie Garin, car elle pourrait concerner au moins 2 millions de personnes.
Oui, qui sont pratiquement toutes aujourd'hui à la retraite, car l'amiante a été interdit en 1997 en France. Mais avant, elles ont toutes travaillé à son contact. Des travailleurs du bâtiment qui ont construit pendant des années des immeubles avec des dalles, de la tôle qui contenait de l'amiante, des ouvriers de la métallurgie, des chantiers navals. 2 millions, ce sont uniquement les personnes qui ont été directement en contact. Mais il y a d'autres secteurs où des poussières d'amiante ont pu être respirées, comme ces salariés d'EDF qui travaillaient dans des centrales où l'amiante servait d'isolant partout. Et puis la Cour de cassation pourrait permettre aussi à des employés qui ont respiré d'autres substances cancérogènes de bénéficier de ce préjudice d'anxiété. Alors pourquoi il est important ? Les victimes pourront ensuite aller devant la justice réclamer des indemnités. Il a déjà été reconnu ce préjudice pour un petit nombre de salariés qui ont reçu en moyenne 10 000 euros d'indemnités. Faites le calcul, si le préjudice est élargi à 2 millions de personnes, ça fait 20 milliards. Donc les syndicats pensent que cet arrêt de la Cour de cassation devrait voudrait poser des limites et limiter donc le nombre de salariés concernés.
Et on l'attend en début d'après-midi.
Vers 14h.
Merci Virginie. Dans un instant, des inscriptions racistes et des croix gammées retrouvées à Lyon.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
À Lyon, une vingtaine de tags racistes et des croix gammées ont été découverts ce matin, avenue Berthelot. C'est dans cette rue que se trouve le centre d'histoire de la résistance et de la déportation qui, lui, a été épargné. Frédéric Perruche, vous êtes sur place pour RTL.
Oui, ces croix gammées, ces insultes racistes inscrites à la peinture rose très voyante sur les vitrines de plusieurs commerces ont particulièrement choqué. Naïma, en particulier, qui estime que son salon de coiffure était clairement ciblé en raison de ses origines.
Il y avait la croix gammée et puis donc l'inscription donc arabe, en gros, sur l'autre vitre. Donc ça a été quand même une surprise pour
un
nous.
Choc.
Bien sûr, clairement. Moi, je dirais vraiment clairement raciste. Enfin, on est en 2019, ils n'arrivent toujours pas à faire la part des choses. Normalement, on devrait avancer vers le contraire et pas des inscriptions comme ça. Ça fait rappeler des mauvais souvenirs.
Gérard Collomb, le maire de Lyon, et Agnès Buzyn, ministre de la Santé, en déplacement dans la ville, se sont aussitôt rendus sur place pour exprimer leur dégoût et leur indignation.
Je pense que ce qu'on a envie de dire aujourd'hui, c'est qu'on ne supporte plus cela. Ces tags à caractère néo-nazi, des croix gammées, des croix SS, c'est surtout dans cette ville de Lyon qui a été tellement meurtrie. Enfin, tout ça est révoltant, on en a ras-le-bol. Et c'est ça qu'on vient dire.
Les tags commencent à être effacés par les services d'entretien et la police a évidemment ouvert une enquête.
Frédéric Perruche à Lyon pour RTL. Le débat entre les têtes de liste aux européennes n'a pas passionné les Français. 1,6 million de téléspectateurs sur France 2 hier soir, soit 9% de part d'audience seulement. Quant au Tour de France du grand débat, il a été clos hier par Emmanuel Macron en Corse, qui aura échangé au total durant 90 heures avec des élus et des Français. On attend maintenant les conclusions la semaine prochaine. Carlos Ghosn sera en garde à vue pendant 9 jours à Tokyo. Le parquet a invoqué un risque d'altération des preuves. L'ancien patron de Renault a été arrêté hier sur de nouveaux soupçons de malversation financière via une filiale de Nissan à Oman. Et la presse japonaise donne des précisions. Philippe Dova, le procureur aurait trouvé un mail qui pourrait constituer une preuve.
Oui, Christelle, et selon la NHK et le quotidien Meninchi aujourd'hui, les enquêteurs auraient fait parler l'ordinateur de Carlos Ghosn, saisi en 2018 à son domicile libanais, et trouver la preuve dans un email que l'ancien patron de l'Alliance était bien au courant de l'illégalité des transferts de fonds de Nissan à son agent commercial Doman. Sur les 30 millions d'euros de sa réserve personnelle, les procureurs soupçonnent en effet Carlos Ghosn d'avoir ordonné à Nissan Moyen-Orient de verser 13 millions à l'agent commercial à Oman. Sur ces 13 millions, 4,5 auraient ensuite transité par une société écran détenue par Ghosn au Liban, avant d'être acheminés vers une autre entreprise libanaise détenue par des proches, dont son épouse. Toujours selon les médias japonais, cet argent aurait servi à l'achat d'un yacht pour usage familial et aurait aussi été investi dans la start-up du fils de Carlos Ghosn aux États-Unis. Des soupçons qui justifieraient la nouvelle arrestation de Carlos Ghosn et la perquisition de son domicile hier. Soupçonné d'abus de confiance aggravé ayant entraîné une perte de 4,5 millions d'euros pour Nissan, Carlos Ghosn aurait nié les faits en bloc. Sa garde à vue a été prolongée ce matin, au moins jusqu'au 14 avril.
Le Brexit de désaccord en report. La première ministre britannique Theresa May demande ce matin un report du Brexit jusqu'au 30 juin prochain cette fois. Donald Tusk, le président du Conseil européen, lui avait envoyé une lettre ce matin lui suggérant un report flexible allant jusqu'à 12 mois. L'idée étant de conclure avant les élections européennes. Ils se sont rencontrés à l'abri des caméras. Matteo Salvini et Marine Le Pen ont posté une photo d'eux sur Twitter. À Paris, les deux leaders populistes ont convenu une date pour un grand meeting. Ce sera le 18 mai à Milan avec leurs alliés du groupe pour l'Europe des Nations et des Libertés au Parlement européen. En Algérie, la rue a exigé qu'Abdelaziz Bouteflika renonce à se représenter. Elle l'a obtenu. Puis elle a demandé son départ. Elle l'a obtenu. Aujourd'hui, on en est au 7e vendredi de mobilisation et le départ du président est vu comme une demi-victoire. La rue espère cette fois en finir purement et simplement avec le système. Une correspondance d'Amina Boumaza à Alger.
Oui, ce matin, ils étaient très nombreux à Alger à manifester pour dire que ce n'est que le début du combat. Le départ de Bouteflika n'est qu'une petite victoire pour les manifestants.
Ça ne suffit pas, ça ne suffit pas, ils doivent tous partir.
C'est le système qui est pourri, c'est pas Bouteflika, c'est tout le monde. C'est tout le système qui est pourri.
Pour les Algériens, on ne peut excuser le régime. Ils estiment que le système politique leur a volé leur avenir.
Ils ont détourné des milliards.
On veut plus de corruption, on veut plus de système qui est absolument pourri.
Le pays est foutu, il n'y a plus rien, ils nous ont tout pris.
La dernière cible de cette manifestation est Gaïd Saleh, le chef d'état-major, largement critiqué.
Oui, avec l'armée, non pas avec Gaïd Saleh. L'armée, c'est pas Gaïd Saleh.
On attend une importante d'importantes mobilisations, non seulement à Alger, mais aussi dans toute l'Algérie.
Amina Boumaza, à Alger pour RTL. Dans un instant, on fait des virements à des copains par téléphone.
RTL Midi avec Christelle Rebière.
Quand votre smartphone remplace votre chéquier, vous pouvez déjà payer vos amis avec votre téléphone, mais dans les prochaines semaines, ce paiement sera instantané via Paylib. La plupart des grandes banques françaises vont le généraliser avant le mois de septembre. Leurs clients pourront donc virer instantanément de l'argent d'un compte bancaire à un autre. C'est un système qui existe depuis 2013 et qui donc se généralise. Mais est-ce sans risque ? Eh bien, nous sommes avec Jérôme Seize. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultant en sécurité et cybersécurité pour la société Opfor. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ?
Alors, il faut déjà rappeler que les banques ne sont évidemment pas naïves en termes de sécurité. Elles savent très bien que tout système de paiement en ligne sera attaqué ou sera testé. Et donc, elles ont mené probablement une bonne analyse de risque. Elles ont réussi probablement en embarquant des sociétés de cybersécurité avec elles à mettre des audits. Et ensuite, en fonction du risque qu'elles ont trouvé, mettre des parades, que ce soit technique ou que ce soit organisationnel. Donc ça, elles le font pour toutes les questions, pour tout ce qui est en ligne et en paiement. En revanche, on sait très bien que le paiement en ligne, toutes les applications bancaires sont régulièrement attaquées, avec succès, et que donc celle-ci le sera aussi.
Mais alors, avec Paylib, le client peut envoyer de l'argent en saisissant le numéro de téléphone du bénéficiaire. Il n'y a pas besoin, il n'y aura plus besoin de saisir le code IBAN. Ça fragilise le système, ça, le fait qu'il y ait juste un numéro de téléphone ?
Alors, on ne peut pas dire si ça fragilise ou non le système sans avoir regardé justement cette fameuse analyse de risque. En revanche, ce qui est certain, c'est que en matière de cybersécurité, une tendance forte aujourd'hui est de s'éloigner du numéro de téléphone comme identifiant. On sait qu'un numéro de téléphone n'a jamais été conçu pour être un identifiant. Mmh. On sait qu'il y a des vulnérabilités, on en a découvertes régulièrement ces dernières années. Donc, c'est plutôt une tendance forte de s'éloigner du numéro de téléphone. C'est ce qui est un petit peu surprenant avec cette annonce-là. Mmh. En même temps, à côté de ça, PayPal, par exemple, permet de payer avec une adresse email qui aussi n'a jamais été conçue pour être un identifiant solide. Donc il faut s'assurer que les bons moyens ont été mis au bon endroit et c'est peut-être ça qui, pour l'instant, reste dans l'ombre.
Donc le paiement instantané, c'est pas forcément un problème supplémentaire ?
C'est pas forcément un problème supplémentaire. On va se retrouver avec les problèmes habituels de la banque en ligne. Alors, sans lancer de guéguerre entre Mac PC ou Mac Android, sur Android, le risque de la banque en ligne est beaucoup plus élevé puisqu'on découvre régulièrement des malwares, des codes malveillants bancaires qui sont conçus pour se faire passer pour des applications légitimes, par exemple, et dérober et faire des virements ou dérober les identifiants bancaires. Donc, il est fort possible qu'au bout d'un certain temps, si cette application rencontre le succès, elle soit victime du même type d'attaque. Mais ça, à la limite, quand un ordinateur ou un téléphone est compromis, il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement.
Je vais être assez direct. Est-ce que vous conseillez à nos auditeurs de réaliser ce type de transaction, c'est-à-dire des virements bancaires, via leur téléphone ? Oui ou non ?
Qu'ils se renseignent auprès des banques sur les mesures de sécurité qui ont été prises.
Oui, mais la banque va toujours. La banque va forcément nous dire ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer.
Ça va être étudié et décortiqué probablement dès que ça sera public, parce que c'est pas encore public à part une tentative locale. Il y a un test local actuellement. Donc pour l'instant, je conseillerais d'attendre surtout et de voir les premiers retours.
Et est-ce qu'on peut améliorer en attendant son système de sécurité sur son téléphone ?
Bien sûr, il convient déjà de ne jamais télécharger d'applications que l'on trouve en faisant une recherche sur le moteur de recherche de l'application Store, par exemple, du marché, mais plutôt de repérer les applications que l'on souhaite installer, aller sur le site du fournisseur de cette application-là, et à partir de là, simplement, de cliquer sur un petit logo iPhone ou Android qui nous amènera à la bonne page. Le risque principal sur sur les mobiles, c'est des fausses applications qui vont demander des droits un peu délirants. Donc c'est surtout ça sur lequel il faut être vigilant.
Donc on reste méfiant. Merci beaucoup, Jérôme Seize, pour vos bons conseils. Merci, à bientôt.
Merci à vous.
La guerre des chaînes, ou plutôt des groupes. Si vous avez une Freebox, vous avez peut-être remarqué un écran noir sur 3 chaînes ce matin qui appartiennent au groupe Altice, notamment BFM TV. Et depuis, la diffusion a repris. En fait, les deux groupes n'ont pas réussi à s'entendre sur une rémunération. Expliquez-nous tout, Laurent. Merci qu'on s'y perd.
Alors, c'est un vrai bras de fer qui est engagé. Pour comprendre, Altice veut, comme l'ont fait avant eux les groupes TF1 et M6, être rémunéré pour la diffusion de ses chaînes par les opérateurs Internet. Selon nos confrères des Échos, ils réclament 5 à 6 millions d'euros par an à Free. Or, Free refuse de payer. Jusqu'au 20 mars, il existait un contrat entre Altice et Free. Ils avaient donc jusqu'à cette date pour négocier. Ils ne l'ont pas fait. Altice a menacé une première fois de couper le signal. Et puis finalement, les deux parties avaient expliqué fin mars qu'elles se donnaient quelques jours, quelques semaines pour négocier. Tout ça avec le CSA en médiateur. Or depuis, ni les uns ni les autres ne se sont retrouvés autour d'une table. Free a donc hier supprimé d'abord la chaîne BFM Business. puis couper le replay des autres chaînes RMC, BFM TV. Et ce matin, coup de tonnerre, Altice a donc annoncé qu'elle mettait fin à la diffusion de ses chaînes sur les Freebox, faute d'accord. Dès 9h30, ces chaînes étaient de retour. Parce que Free vient d'expliquer pourquoi dans un communiqué. Il s'appuie sur le contrat qui est passé entre les chaînes et le CSA qui les autorise à diffuser en France. Dans ces contrats, il y a un article premier qui oblige les chaînes de télévision à permettre leur reprise sur les réseaux ADSL et fibre. Voilà pourquoi Free a rétabli d'autorité la diffusion de ces trois chaînes pour l'ensemble de ses abonnés.
Je sens que la guerre n'est pas terminée.
Non, loin de là.
Merci Laurent. Et puis nous venons d'apprendre la disparition d'une grande voix de la radio et plus particulièrement d'RTL. Jean-Pierre Farkas vient de mourir. Il avait 86 ans. Il avait dirigé notre rédaction ici à RTL et créé entre autres le journal Inattendu en 1966. On se souvient de cette séquence avec le réalisateur Jean-Luc Godard.
Jean-Luc Godard, cinéaste ou plus exactement peintre en lettres. C'est une définition qu'il aime bien et qu'il va peut-être compléter tout à l'heure. Pour les uns, Godard, c'est un fumiste. Pour les autres, c'est un homme de génie. Bon, il faudrait expliquer tout de suite ce petit bruit. Refaites-le. Bon, ça fait partie des exigences de Jean-Luc Godard.
C'est un bruit, je trouve, puisque la radio, c'est du son. On devrait faire entendre des fois des sons avec leur signification. Par exemple, ce bruit-là, il naît environ un bébé chinois toutes les 3 secondes.
Géniale séquence hein, du journal Inattendu avec la voix de Jean-Pierre Farkas qui vient donc de s'éteindre. Enfin, n'oublions pas l'anniversaire d'un baiser. Un baiser qui a fait le tour du monde car c'était beaucoup plus qu'un acte d'amour. Celui de l'actrice Clémentine Célarier avec un homme séropositif.
Après tout, on est là pour s'unir. Les séropositifs, les pas séropositifs, les homosexuels, les pas homosexuels. Et j'ai envie de faire un truc con, mais j'ai envie d'embrasser le monsieur qui est derrière moi sur la bouche. Voilà.
Est-ce que j'ose ?
Il a de la chance, le monsieur.
C'était il y a 25 ans tout juste, un baiser de révolte, de compassion, de combat. Un quart de siècle plus tard, le SIDAction a encore besoin de vous. Coup d'envoi ce soir jusqu'à dimanche. Vous pouvez appeler le 110 ou envoyer le mot don par SMS au 92-110, ce qui vous permettra de donner 5 euros. Et rendez-vous bien sûr sur Internet, sur le site sidaction.org. Et on retrouve Pascal Praud avec qui vous allez dialoguer au 32-10 dans une dizaine de minutes. Pascal.
Oui, Christelle, et les plus jeunes peut-être ne se rendent pas compte l'état dans lequel nous étions dans les années 90 par rapport au sida. Ah oui. Parce que apprendre une séropositivité, c'était synonyme de mort. Oui. Et il y avait une peur quasiment panique, une trouille qui existait dans les jeunes gens que nous étions à cette époque-là. On va en parler bien sûr au 32-10. Est-ce que la prévention est suffisante? Parlez-vous de la sexualité avec vos enfants. Le sujet est-il tabou dans votre famille? Que vous soyez enfant d'ailleurs ou parent, vous pouvez nous appeler sur ce sujet. Faut-il élargir la vente des médicaments sans ordonnance aux grandes surfaces et à Internet? C'est le sujet du jour. Et puis les interdictions administratives de manifester censurées par le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous approuvez? À tout de suite.
À tout de suite. La météo, rebonjour Valérie Quintin.
Rebonjour.
La France est coupée en deux.
Oui, à la verticale, ça change un petit peu. Pour l'instant, on a du soleil à l'est d'une ligne entre la Haute-Normandie et le Midi toulousain. Donc surtout, une grosse moitié est du pays, c'est quand même relativement bien ensoleillé. Ça va le rester. Les pluies, elles sont arrivées par l'ouest. Il pleut du Cotentin jusqu'à la Bretagne et en descendant vers le Poitou-Charentes. Des pluies qui vont glisser et s'intensifier un petit peu en allant vers l'Aquitaine où ça pourrait claquer assez fort cet après-midi vers le Pays Basque. Partout ailleurs, on devrait conserver des éclaircies. Si ce n'est que quand même, peu à peu, les nuages vont grignoter du terrain forcément et on pourrait avoir quelques ondées en fin de journée entre la Normandie, le bassin parisien ou encore les régions centrales. Les températures, eh ben, ça grimpe un petit peu, pas bon, trop. 11 degrés à Brest cet après-midi, 13 à Caen, 14 à Annecy, 15 à Paris, 16 à Nice, 18 à Toulouse et à Clermont-Ferrand.
Et alors, donc, pour ce week-end, un beau petit casse-tête pour les prévisionnistes comme vous, Valérie.
Je ne sais pas comment vous faire comprendre qu'il va y en avoir pour tout le monde. Alors,
tout
demain,
et pour tout le monde, visiblement.
C'est ça. Demain, on a une dégradation qui va aller, alors vraiment, en plus de travers, ce qui n'est franchement pas facile, elle va aller de la Bretagne jusqu'à la Méditerranée en passant par le Limousin, dans la partie sud. Donc en région PACA, il faut s'attendre, surtout demain matin, à de très gros orages associés à de fortes rafales de vent. À l'avant de tout cela, vers l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées, on va avoir des averses assez fréquentes. Et à l'arrière, à contrario, au nord de la Seine, pour situer à peu près correctement, on pourrait avoir une journée plutôt bien ensoleillée. C'est d'ailleurs par là qu'il fera le plus doux demain après-midi. 19 à Paris, 15 à Lyon, 14 à Toulon, 11 à Nantes. Et dimanche, on garde beaucoup d'instabilité sur tout le territoire, avec des températures qui restent à peu près de saison. 15 degrés de moyenne au nord, 18 au sud. Figurez-vous que ce sera comme ça toute la semaine prochaine. On ne sort pas de cette instabilité pour le moment.
Merci et bon courage. Dans un instant, le rappel des titres avec Alexandre de Saint-Aignan. Il est 13h.
Le tout info des auditeurs ont la parole sur RTL.
Bonjour Alexandre de Saint-Aignan.
Bonjour Christelle, bonjour à tous. Le ministre de l'Intérieur regrette la décision du Conseil constitutionnel. Les sages ont censuré hier la loi anti-casseurs, supprimant l'article 3, c'est-à-dire la possibilité pour les préfets de prononcer des interdictions de manifester. C'était la disposition la plus emblématique du texte, mais aussi la plus critiquée.
J'en prends acte. Évidemment, nous ne l'appliquerons pas. Quand la loi sera promulguée, cet article ne sera pas efficient. Je regrette cette décision parce que je pense aux forces de l'ordre qui l'attendaient et qui attendaient ce nouvel outil qui est nécessaire. Je regrette parce que je pense aux commerçants, aux maires, aux habitants de nos villes qui souffrent tous les samedis de ces violences-là et qui ne supportent pas de voir des individus qui, la semaine précédente, ont pu être identifiés comme auteurs revenir le samedi précédent. Mais je ne conteste pas l'analyse juridique, ni, et encore moins, la décision du Conseil constitutionnel. Donc, j'en prends acte.
Christophe Castaner avec Olivier Bois pour RTL. Les Gilets jaunes prévoient de manifester à nouveau demain dans plusieurs villes de France pour le 21e samedi consécutif. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a critiqué tout à l'heure le rôle des ONG en Méditerranée. Il estime que les bateaux humanitaires ont pu se faire complices des passeurs, affirmant que certaines associations étaient en contact avec ceux qui font payer aux migrants la traversée vers l'Europe. Christophe Castaner les appelle à avoir une attitude responsable. Un report pour le Brexit, pas tout de suite, dit l'Élysée. La France estime prématuré de repousser encore la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, alors que la première ministre britannique, Theresa May, a demandé ce matin un report pour la fin du mois de juin. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, lui, a même évoqué un report flexible jusqu'à un an. Le gouvernement conservateur anglais et l'opposition discutent actuellement de la manière d'éviter un hard Brexit. Initialement prévu au 29 mars, le Brexit avait déjà été repoussé au 12 avril, c'est-à-dire dans une semaine. Trois jours pour parler du VIH. Le SIDAction commence aujourd'hui. 24 000 Français sont séropositifs, mais ils ne le savent pas encore. On découvre 6 000 nouvelles infections chaque année dans toutes les tranches d'âge. Un sujet très difficile à aborder avec son entourage. Loïc a été dépisté depuis 5 ans. Ça lui a pris plusieurs années avant de réussir à en parler à sa famille.
Je ne me suis pas senti capable de le dire à mes parents dans un premier temps. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais devenir, tout simplement. Je n'avais pas les armes pour pouvoir leur expliquer et leur dire que tout allait aller bien, parce que moi-même, je n'étais pas convaincu de ça. Il y a un poids, il y a une culpabilité. C'était une peur d'être jugé, se dire « t'es gay, t'as le VIH, c'est un peu normal enfin, ». J'avais un peu peur de ça, de cette réaction de « je te l'avais bien dit ». De faire attention. J'ai pas envie de me faire juger, j'ai pas envie de me faire engueuler, j'ai pas envie d'être rejeté. À un moment, je me suis dit, il faut que je me lance, c'est le moment. Et leur première réaction a été, oui, tu vas vivre. J'ai projeté moi mes propres peurs sur eux, alors que finalement, ils avaient beaucoup plus de connaissances que moi, certainement, dès le début. Enfin, ma mère m'a dit, qui ne fait pas d'erreur ? On est humain.
Témoignage recueilli par Odile Pouget pour RTL. Faites un don pour le SIDAction. Téléphonez au 110 ou rendez-vous sur sidaction.org. PNL, trois lettres pour un duo de rappeurs mystérieux. Leur nouvel album s'annonce déjà comme un succès. Il sort officiellement aujourd'hui, mais la plupart des fans ont déjà pu découvrir leurs chansons, comme Benoît et Mohamed dans les quartiers nord de Marseille.
En gros, tout simplement, l'album il a fuité depuis plus ou moins lundi, depuis le début de la semaine, et tout le monde là l'écoute en fait.
C'est nouveau, mais c'est toujours dans le même genre que d'habitude. C'est méchant, c'est bien.
Mais ce qui est bien avec PNL, c'est qu'ils sont, genre, ils ont élargi leur musique. Maintenant, ils font de la, par exemple, Sochi 91, c'est ambiance années 80. Moi, je kiffe ça, tu vois. Voilà, c'est Miami, c'est Los Angeles, tu vois, la nuit, tu rides. Et avec ODD, c'est pop, il y a une guitare. C'est entraînant, les gens qui ont pas du rap, peuvent aimer ça. C'est ça, ils chantent, ils rap. En plus, bon, ils représentent leur ville, il y a un clip sur la Tour Eiffel.
Dans la même recette, jamais quelque chose de trop nouveau. Pour rester vraiment par rapport à eux, à ce qu'ils font, leur thème, leur histoire. C'est ça qu'ils font, c'est ça leur recette, tout simplement. C'est ça qui permet de vendre.
Voilà une analyse musicale marseillaise au micro RTL d'Hugo Hamelin. À 13h05 sur RTL, on change de disque. C'est l'heure de faire un point sur les marchés financiers en partenariat avec Investir les Échos. Bonjour Sylvie Aubert.
Bonjour Alexandre.
La Bourse de Paris prolonge sa pause.
Eh oui, un petit peu de pause, ça fait du bien à la Bourse de Paris après des séances de hausse. Là, elle ne gagne qu'un petit 0,2%, 5476. Le marché est quand même confiant. Il salue à la fois la volonté de progrès dans les négociations commerciales entre les Américains et les Chinois et l'éventualité, vous en parliez, d'un report de la date du Brexit. Cela dit, après les dernières données économiques américaines signalant un net ralentissement de la croissance, eh bien les boursiers attendent avec un peu d'inquiétude la publication tout à l'heure des chiffres de l'emploi aux États-Unis pour le mois de mars. Alors comme le mois de janvier et le mois de février, les données avaient été complètement bouleversées, vous vous en souvenez, par le shutdown, par les conditions météo extrêmes, eh bien celles du mois de mars, moins polluées par ces facteurs extérieurs, seront très observées. On regarde aussi ST Micro qui gagne 3% aujourd'hui, Valeo et Sodexo plus 2 et enfin Luxottica et Essilor Luxottica cède 1,2%.
La Bourse de Paris avec Sylvie Aubert. Vous avez regardé la télévision hier soir ? Pas question de faire parler 12 personnes en même temps sur RTL. Hein. Dans un instant, votre tête à tête avec Pascal Praud. Les auditeurs ont la parole.
Vous écoutez RTL.